Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. C'est une affaire qui prend une ampleur vertigineuse. L'anesthésiste de Besançon est aujourd'hui suspecté d'une trentaine de cas d'empoisonnement de patients. Sa garde à vue a été prolongée. Patrick Balkany fait le show. Au troisième jour de son procès, il brandit son héritage familial pour justifier l'argent liquide coulant à flot. Emmanuel Macron s'implique dans la campagne des européennes. Son visage sur des affiches, l'opposition s'insurge. Le président qui répond à Angela Merkel, la chancelière, reconnaît que leur relation n'est pas toujours au beau fixe. Les femmes ne pourront prochainement plus avorter en Alabama, aux États-Unis, même en cas de viol ou d'inceste. Et les médecins seront sévèrement condamnés. Dans ce journal, on sera également à Cannes avec Mathieu Charrier pour la projection du premier film français en compétition, Les Misérables, et à Clairefontaine avec les Bleus qui s'entraînent un peu plus de 3 semaines maintenant du coup d'envoi du mondial sous les yeux de jeunes supporters enthousiastes. Pas d'enthousiasme côté météo, la journée de demain sera un peu moins ensoleillée, profitez-en quand même car dès vendredi, ça va sérieusement se dégrader. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Éric Hazan, il est co-responsable du digital au cabinet de conseil McKinsey.
Europe 1. La garde à vue de l'anesthésiste de Besançon a donc été prolongée. Il faut dire que les soupçons s'accumulent, des tentatives d'empoisonnement de patients. Il est suspecté désormais d'une trentaine d'incidents. Frédéric Péchier nie depuis le départ, mais l'étau semble se resserrer. Écoutez le témoignage édifiant d'Odile. Elle fait partie des 35 personnes qui accusent l'anesthésiste et qui a porté plainte ce matin.
Je me suis fait opérer en janvier 2015. Et en fait, quand on est en salle pour se faire préparer, en fait, il est arrivé, il a posé une caisse au pied de mon lit. J'ai vu que des cathéters, enfin des genres comme ça, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans la caisse. Hein. Je l'ai regardé, j'ai adressé un sourire et il m'a dit, pour rigoler, c'est de la bonne. Et en fait, je suis passée, donc je suis arrivée au bloc et après, voilà, je ne me souviens de rien. Je me suis retrouvée en réanimation. Un arrêt cardiaque, oui. J'avais donc changé de couleur, j'étais grise et j'étais montée en pulsation à 260 quand même.
Ce médecin, il n'était pas censé intervenir auprès de vous
Non, après il est reparti avec sa caisse et tout, voilà pour moi. Et maintenant le truc assez lourd, c'est que j'ai énormément de pertes de mémoire pour les courses, tout ce que je veux, j'ai toujours une feuille pour écrire, autrement je me souviens de rien. Quand j'ai appris qu'on aurait pu m'empoisonner, là c'était dur à avaler, ouais. Enfin je comprends pas qu'en ayant un métier comme ça, on puisse jouer avec la vie des gens.
Le témoignage d'Odile au micro Europe 1 d'Arthur Henbaché. Le procès Balkany, troisième jour, le maire de Levallois-Perret qui continue de s'expliquer sur les soupçons de fraude fiscale et sur ses luxueuses résidences en Normandie et à Marrakech notamment. Un prévenu bavard qui assume un train de vie hérité de sa famille et de sa belle-famille. Salomé Legrand, vous avez suivi l'audition qui a duré tout l'après-midi et qui a tourné au chaud.
Avec un Patrick Balkany complètement à l'aise qui a fait sa propre introduction pour détailler tous les fonds dont sa femme et lui ont hérité. Il additionne les francs, les parts immobilières, les magots en Suisse et les ventes de meubles. Nos familles avaient de gros moyens. On a peut-être été mal habitués, mais on a bien vécu. Il fait un quart de tour sur sa droite vers le procureur et avec un petit air compatissant. Et je suis désolé pour l'administration fiscale qui ne comprend pas qu'on puisse dépenser plus que ce qu'on a gagné. Deuxième round avec les questions du tribunal sur les différentes villas. Balkany hausse tout. À l'entendre, Giverny n'est qu'un vieux moulin dans son jus, avec une piscine malheureusement à refaire et un terrain de tennis qui ressemble plus à un champ envahi de mauvaises herbes. Peu importe que le président rappelle que des constatations ont été faites sur place, même apitoiement sur la villa à Pamplemousse aux Antilles, de simples bungalows, non pas sur deux niveaux, mais un rez-de-chaussée et un sous-sol, même pas au bord de la mer. Quant aux liasses de billets brassées par le couple, ah non, ça n'est pas notre genre, je ne jette rien par les fenêtres.
Salomé, tout ça a duré 4 heures. Hein.
Eh oui, interrompu juste pour aller boire des petites gorgées de badois. Le tonitruant maire de Levallois a enchaîné les punchlines et n'a pas manqué une occasion de se payer le fisc. Je cite, je n'ai pas un amour fou pour cette administration, mais elle doit m'adorer. Si tous les mauvais payeurs payaient autant que moi, on n'aurait plus de problème en France. Il s'est aussi offert toutes les digressions sur le métier de maire, la guerre, le prélèvement à la source. Et c'est son propre avocat qui l'a arrêté juste après une question sur ses éventuels regrets, celui d'être devant vous, j'aurais préféré qu'on aille boire un café.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 qui suit ce procès des époux Balkany. Au lendemain de l'hommage national, les obsèques de Cédric de Pierrepont aujourd'hui dans l'intimité, chez lui à l'Armor-Plage. Alain Berton de Cello sera lui inhumé samedi en Haute-Savoie. Ils s'engagent à lutter contre la diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents. 26 États et géants du net ont signé aujourd'hui à Paris l'appel de Christchurch, ville de Nouvelle-Zélande où a eu lieu un massacre dans une mosquée le 15 mars dernier. Carnage en partie filmé par le tueur via Facebook Live. Les plateformes s'engagent à retirer de manière systématique et permanente les contenus terroristes. Notez que cet appel, les États-Unis ont refusé de le signer.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h05 et à 11 jours des élections européennes, Angela Merkel reconnaît que ça n'est pas facile tous les jours avec Emmanuel Macron. La chancelière évoque des différences de mentalité et de compréhension des rôles. Mais elle ajoute, ce n'est pas le premier président français avec lequel je travaille. Et c'est toujours comme ça. Écoutez la réponse de l'intéressé.
Moi, je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile. Je crois à la confrontation féconde. Et donc, nous devons réussir à accepter de ne pas être totalement d'accord sur tout pour avoir le courage d'affirmer ce que nous voulons. Ce qui est attendu de la France en Europe, c'est de dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle porte, quelles sont ses ambitions, et ensuite de construire un compromis avec l'Allemagne pour pouvoir avancer. C'est ça notre histoire, et c'est le cœur de notre relation. C'est comme ça que nous avons avancé sur beaucoup de choses, et que nous continuerons à le faire avec le même esprit de construction et d'avenir qui nous anime, la chancelière Merkel et moi-même.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 de Maud Descamps, le président dont le visage va figurer sur une affiche pour les européennes. C'est Europe 1 qui vous révélait cette information ce matin. L'idée, c'est de remobiliser les troupes à moins de 15 jours des élections avec ce message « En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance ». Affiche sur laquelle n'apparaît pas la candidate officielle de La République En Marche, Nathalie Loiseau. Une implication présidentielle dénoncée dans l'opposition. Sébastien Huyghe, député Les Républicains de la 5e circonscription du Nord.
Il avait promis d'être un président différent des autres, au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée. Là, on a un président avec des vieilles recettes politiciennes qui s'inscrit dans les pas de Sarko et de tous les autres. Ce n'est pas à la hauteur de la fonction, ce n'est pas ce qu'on attend d'un président. Mais moi, je pronostique que les Français ne sont pas un peuple imbécile et qu'ils ne se feront pas avoir la seconde fois.
Sébastien Huyghe, député Les Républicains au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudot. Eux s'estiment interdits de parole. Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde et Nicolas Dupont-Aignan se sont réunis aujourd'hui devant les locaux de France Télévisions pour protester contre leur relégation en deuxième partie d'un débat organisé par France 2. Scandale démocratique, dit le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
France Télévisions a choisi 6 candidats et les candidats ne viendront même pas d'ailleurs. Ils ont des ventriloques. C'est-à-dire que c'est Mme Le Pen qui représentera M. Bardella, c'est M. Wauquiez et M. Bellamy, et Mme Loiseau est cachée, il y a quelqu'un d'autre qui va la représenter. Et nous, qui sommes chefs de parti, avec M. Hamon, M. Lagarde, qui avons un vrai projet, on peut le contester, mais il existe, nous sommes exclus, alors que nous représentons des millions d'électeurs. C'est ça la démocratie française du service public? C'est un scandale absolu. Et j'appelle les Français à boycotter ce débat du service public qui est manipulé. C'est honteux ce qui se passe.
Nicolas Dupont-Aignan au micro Europe 1 de Chanel Petit. Un mois tout juste après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les promesses de dons atteignent 850 millions d'euros alors que la Fondation du patrimoine a décidé d'arrêter la collecte. Elle est l'une des 4 institutions chargées de recueillir ces fonds. Décision que regrette le ministre de la Culture qui s'est rendu sur place aujourd'hui en compagnie du Premier ministre canadien. Justin Trudeau assure que son pays est disposé à offrir tout l'acier et tout le bois nécessaire. Vous pouvez compter sur vos cousins canadiens, a-t-il lancé sur le parvis de la cathédrale. Une confirmation, ce mercredi, les tarifs réglementés de l'électricité augmenteront de 5,9% le 1er juin, après le gel de 6 mois décidé en réponse à la crise des gilets jaunes. Ça y est, les fonds sont arrivés, 5 millions d'euros versés par British Steel, le repreneur de l'acierie Ascoval. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se veut rassurant alors que la presse britannique avait évoqué le risque de faillite de l'entreprise. En tout cas, les salariés n'en peuvent plus de ces rebondissements. Nassim Bardi est délégué CGT chez Ascoval.
Nous, les salariés d'Ascoval, on en a marre. Ça fait 4 ans qu'on nous tourne comme ça en bourrique, on en a marre. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent une solution pérenne et durable parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à douter du projet British. Il y en a qui démissionnent et surtout les clients aussi. Il y a les clients qui vont hésiter à venir chez nous. Donc les fonds, demain soir, il faut que les fonds arrivent. Maintenant, il y avait un projet industriel qui est sérieux. Donc voilà, on y croit. Mais si le démarrage, déjà, il y a des soucis financiers, vous savez, on ne peut pas redémarrer une usine s'il n'y a pas de fonds.
Nassim Bardi, délégué CGT chez Ascoval. Il était au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Et dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et l'Alabama qui vote la loi la plus répressive des États-Unis sur l'avortement. A tout de suite.
Europe 1.
Je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client, mais aussi de relations humaines.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h10, c'est la suite de votre journal. Et l'État d'Alabama aux États-Unis qui vient donc d'adopter la loi la plus restrictive et la plus répressive en matière d'avortement. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'avortement sera donc désormais interdit en Alabama.
Oui, ce sera désormais un crime dans cet État du Sud très conservateur. Les médecins qui pratiqueront l'IVG risqueront jusqu'à 99 ans de prison, avortement interdit, même en cas de viol ou d'inceste. La seule toute petite exception, c'est s'il y a un risque grave pour la santé de la mère. Alors immédiatement hier, après le vote, les associations de défense des droits des femmes ont promis de se battre devant les tribunaux contre cette nouvelle loi qu'ils jugent contraire à la Constitution. Et ça, eh bien, c'est exactement ce que cherchent les anti-IVG. Ils veulent faire remonter le débat à la Cour suprême parce que c'est la plus haute instance judiciaire du pays qui a garanti le droit à l'avortement dans un arrêt symbolique il y a 46 ans. Et depuis, le mouvement anti-avortement, qui est très important ici, rêve de faire revenir la Cour suprême sur sa décision. Les anti-IVG pensent avoir une bonne chance désormais grâce à Donald Trump. Le président américain a nommé deux nouveaux juges très conservateurs à la Cour suprême. Et il pourrait faire pencher la balance en faveur des anti-avortements.
Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et on va prendre maintenant la direction de Cannes avec le premier film français en compétition qui a été projeté aujourd'hui. Mathieu Charrier, vous êtes notre spécialiste cinéma. Vous suivez ce festival et ce film, vous l'avez vu, il s'appelle Les Misérables, référence à Victor Hugo, sauf qu'il retrace la vie dans les banlieues, Mathieu.
Exactement, à travers le quotidien de trois policiers de la BAC, le beau Francis, le banlieusard devenu flic et le tout jeune arrivé qui assiste aux actions un peu zélées de ses camarades jusqu'à une bavure filmée par le drone d'un gamin du quartier. Ça, c'est la trame de fond du film. Mais je vais vous dire, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce film raconte surtout la vie au jour le jour des enfants de cette banlieue. Entre misère, système éducatif défaillant, violence, bien sûr, ils n'écoutent plus vraiment les grands frères, ils n'écoutent plus vraiment les caïds. Les seuls qui parviennent à la limite à les canaliser, ce sont les imams modérés. L'Adjli, le réalisateur, il a toujours vécu à Montfermeil, il a d'ailleurs créé un collectif qui s'appelle Courtrage-Mais, grâce auquel il filme depuis des années le quotidien de la banlieue. Il filmait aussi les policiers en intervention pour empêcher justement les excès de zèle. Bref, Les Misérables, référence, vous le disiez, à Victor Hugo, est un film politique, engagé, qui véritablement lance la compétition cannoise ce soir après Les Zombies d'hier soir.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1 et envoyé spécial à Cannes. Et on prend des nouvelles des Bleus, nos footballeuses qui se préparent activement pour le Mondial dont le coup d'envoi sera donné le 7 juin. Entraînement à Clairefontaine aujourd'hui sous les yeux de jeunes élèves venus les encourager avec ferveur, Julien Froment.
Oui, en fin de matinée, une poignée de chanceux et de chanceuses ont assisté à l'entraînement de l'équipe de France. Les scolaires de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, drapeau bleu-blanc-rouge sur les joues et des étoiles plein les yeux.
C'est pas mal parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Elles sont super fortes.
C'est génial, quoi.
Je suis super contente de les voir en vrai parce que c'est la première fois que je vois des joueuses de foot en vrai dans la réalité.
C'est vraiment bizarre, c'est vraiment... j'ai pas le mot, j'ai même pas le mot.
Elles sont bien, elles jouent bien. J'aimerais bien, quand je serai grande, être un peu comme elles.
Une heure d'entraînement et puis la traditionnelle séance d'autographe. Toutes les joueuses se sont prêtées au jeu, comme la milieu de terrain Charlotte Bilbo.
C'est toujours plaisant.
Madame,
on sait qu'il y aura un talent du moins à la Coupe du Monde, que les enfants sont contents et nous on essaye de les faire rêver aussi.
Vous les avez entendus dans les tribunes, le remix de VG Dream ou pas?
Bon, on a entendu. Bon, on a entendu. Bon.
2019, c'est votre moment du coup.
On va tout faire pour.
Voilà, vous l'entendez, hein, ramener la coupe à la maison. 2019, c'est leur moment. C'est peut-être le nouvel hymne à succès de cette équipe de France.
Allez les Bleus, on va la ramener cette coupe à la maison et on suivra ça évidemment en direct sur Europe 1, tous avec les Bleus. Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Valérie Darmon et pour demain Valérie, un peu moins de soleil mais des températures qui se maintiennent. Tout à fait Isabelle, entre 3 et 8 degrés en général, 8 à 10 sur la façade atlantique, 8 à 13 sur les plages de Méditerranée. Dans la journée, les maximales qui afficheront 17 à 20 degrés sur la moitié nord, sur l'Auvergne, sur Rhône-Alpes, 14 à 16 sur l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, les Ardennes. Et puis en allant vers le sud, il fera 19 à 22 degrés, 23 dans l'arrière-pays méditerranéen et 25 au sud de la Garonne. Et puis dans la soirée de demain et dans la nuit, surtout de jeudi à vendredi, pas la nuit prochaine, le temps va se dégrader franchement par le sud et les pluies vont déborder des Pyrénées pour s'étendre à tout le sud-ouest jusqu'au Languedoc-Roussillon. Tout ça pour vous dire que demain, c'est la journée la plus douce de cette semaine et aussi la dernière ensoleillée avant au moins la fin du week-end.
La météo, signée Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur du digital au cabinet de conseil McKinsey. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
En tant que chef d'entreprise, j'attends d'une mutuelle qu'elle protège mes salariés en cas d'arrêt de travail. Et puis bien sûr qu'elle les aide à préserver leur niveau de vie.
Aesio est un nouveau groupe mutualiste qui met à disposition des entreprises des conseillers en protection sociale pour élaborer, ensemble, une offre prévoyance permettant de compléter les revenus des salariés en cas d'incapacité de travail. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Plus d'informations sur aesio.fr.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Alors, les marchés américains poursuivent leur remontée ce soir.
Oui, c'est du vert. Le Dow Jones avance de 0,45%, 25 648 points, plus 1,13% pour le Nasdaq qui est à 7 822 points. Ça monte grâce à des tensions qui retombent un peu dans la guerre commerciale. Donald Trump taxe déjà, vous le savez, des produits chinois, de l'acier européen. Mais il a aussi une dent contre les importations de voitures en provenance de l'Union européenne. Alors, la bonne nouvelle du côté des investisseurs, c'est que le président américain pourrait repousser de 6 mois ces possibles taxes douanières qui inquiètent beaucoup les constructeurs automobiles, en particulier en Allemagne. Ce soir, les valeurs technologiques profitent de cette accalmie. Apple gagne 1,2%, Facebook plus 3%. Facebook qui a présenté des règles plus strictes pour publier des vidéos en direct sur le réseau social. Vous en parlez dans le journal, c'est une réaction à cette polémique après les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le pétrole est en hausse, plus 0,4%, 62 $ le baril WTI. Et puis l'euro est quasi stable et s'échange autour de 1,12 $.
Et le marché parisien, lui, s'est repris en fin de séance grâce à la bonne forme, comme à New York d'ailleurs, du secteur automobile.
Oui, c'était mal parti pour le CAC qui gagne finalement 0,62%, 5 374 points. Le CAC qui s'est repris donc grâce aux bonnes nouvelles pour les constructeurs automobiles européens avec ce probable report des taxes aux États-Unis. Du coup, Peugeot gagne 1,6%, plus 2,9% pour Michelin, Renault perd 1% mais a beaucoup réduit ses pertes en fin de séance. Le constructeur est toujours plombé par les contre-performances de son partenaire japonais Nissan. Lafarge Holcim a publié un bénéfice d'exploitation en hausse de 16% au premier trimestre, gonflé par de solides résultats en Europe. Le titre du cimentier bondit de 2,5%. Et puis performance trimestrielle saluée aussi pour FH qui monte de 4,3%.
En revanche, l'accueil est beaucoup plus sévère pour Crédit Agricole.
Oui, c'est la sanction après les résultats trimestriels. La banque déçoit le marché avec des charges plus élevées que prévu, moins de 6 pour Crédit Agricole. C'est du rouge aussi pour JC Deco, moins de 9. Les investisseurs ne sont pas convaincus par les performances du spécialiste du mobilier urbain. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé en hausse, plus 0,9%. Pour Francfort, plus 0,8%, pour Londres, Madrid, plus 0,5%, Amsterdam, plus 0,4%. L'exception, c'est Milan, avec un marché qui souffre des craintes sur la situation des finances publiques italiennes. Et puis à Paris, le CAC 40 gagne 0,6% et on est à 5 374 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet. Claire Lemaître de Boursier.com, à demain.